Monaco s'engage en faveur de la transition énergétique. Vous aussi, vous souhaitez agir au quotidien pour la planète. Découvrons l'action quotidienne d'un nouveau signataire du pacte pour la transition énergétique.
Bonjour, Roland de Rechniewski, je suis directeur d'exploitation de la compagnie des autobus de Monaco qui assure le transport public en autobus en principauté de Monaco et le réseau Monabike dont on parle souvent en ce moment dans les colonnes des journaux.
Alors, quel a été le facteur déclenchant qui a incité la compagnie des autobus de Monaco à signer le pacte pour la transition énergétique ?
Alors, le point important à mon sens, c'est l'exemplarité, que ça soit en interne ou en externe, l'adhésion aux bonnes pratiques. Même si, je dirais que ces bonnes pratiques, elles ont toujours été dans l'essence même de la société. On a toujours fait très attention à ces bonnes pratiques. Mais aujourd'hui, on l'a formalisé, on adhère à un pacte qui est national. Et ça, je pense que c'était ça qui était important.
Est-ce qu'il y a des changements que vous avez apportés immédiatement à cette signature quand vous avez donc décidé de vous engager dans le pacte ?
Alors d'abord, de la communication interne, sensibiliser chaque employé à avoir les bonnes pratiques en toutes circonstances, c'est-à-dire les bonnes pratiques au quotidien. Les petits gestes, les interrupteurs, les robinets d'eau, le signalement lorsqu'il y a un défaut de fonctionnement, l'utilisation par exemple de ventilation dans nos locaux techniques. On a des accélérateurs de ventilation lorsque vous avez des mauvaises odeurs par exemple. Bon, on peut en user, mais on peut aussi en abuser. On a fait en sorte de ne plus en abuser. On a mis des systèmes aussi, on a installé des systèmes automatiques qui permettent à la fois d'éteindre ou d'allumer les lumières, mais aussi la ventilation qui est très, très consommatrice d'énergie. Disons qu'on est aussi attentif à l'utilisation des produits nettoyants qui doivent avoir des normes environnementales, comme par exemple des produits de nettoyage, de manière à ce que ces produits soient neutres pour la faune marine, par exemple. Ça, c'est un sujet. Alors, ce n'est pas de l'énergie hein, au sens terme, mais c'est une bonne pratique. Et c'est ça, c'est cette bonne pratique globale qui doit être surveillée. On a une politique de recyclage encore plus fine sur les produits usagés, surtout les contenants vides, par exemple tout ce qui est réservoir en plastique, ce genre de choses, de manière à ce qu'ils ne soient plus jetés dans les poubelles, mais qu'ils soient au contraire triés. On a remplacé nos produits absorbants, vous savez, lorsqu'il y avait des dépôts sur le sol de matières grasses, on a remplacé ça par des produits végétaux. Bon, on diminue l'utilisation au maximum de tout ce qui est bombe aérosol. Ça, c'est quelque chose qu'on a. On préfère les petits pulvérisateurs manuels, hein, même s'il faut les remplir. Et puis alors, il y a une chose qu'on a maintenue, c'est-à-dire qu'on a maintenu nos habitudes anciennes, c'est de conserver une politique de maintenance sur place. En d'autres termes, les véhicules se complexifient, bien évidemment, au niveau maintenance. Alors vous avez deux choix. Soit vous n'avez pas la compétence et vous allez le sous-traiter et vous allez emmener le véhicule à 10, 15, 20 km pour le faire par des spécialistes. Soit vous essayez d'acquérir cette compétence et vous le faites sur place. Alors ça a deux avantages. Un, vous ne polluez pas pour aller et revenir. Deux, vous augmentez le niveau de compétence de vos collaborateurs et vous avez un savoir-faire qui est l'essence même de notre entreprise. Et moi, je veux que nos collaborateurs soient fiers de faire mieux, ou aussi bien, ou mieux que les autres.
Alors, vous avez déjà répondu, vous avez modifié vos modes de déplacement. C'est délicat de vous poser cette question, puisque vous, votre activité, c'est le déplacement en principauté. Comment faites-vous pour être le plus vertueux possible dans les modes de déplacement ?
Alors, d'abord, d'un point de vue professionnel, on a remplacé tous les véhicules qui pouvaient l'être par des véhicules électriques. Par exemple, certaines lignes qui nécessitent des relèves, je dirais, en milieu d'itinéraire, pas à proximité du lieu de prise de service. Par exemple, prenez la ligne 5, la relève s'effectue à l'hôpital. Donc, pour pouvoir monter et descendre de l'hôpital, on peut soit y aller à pied, soit y aller en véhicule. On a choisi des véhicules électriques qui nous permettent d'être rapides, donc de ne pas perdre de temps, d'être efficaces, sans polluer l'environnement. Ça, c'est la première chose. Et ne limiter l'utilisation de véhicules avec des émissions fossiles qu'au strict minimum. Pour ce qui est des déplacements autres, c'est-à-dire des déplacements de nos salariés, qui est un sujet aussi important. La difficulté que nous rencontrons, c'est que nous avons des horaires décalés. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, nos salariés quittent souvent leur maison à 5h30, voire quelquefois plus tôt, entre 5h et 7h. Ce qui fait que c'est beaucoup moins facile pour organiser un covoiturage, par exemple. C'est moins facile. Et puis, ils finissent leur travail sur le coup de 13h à 14h. Là aussi, il y a moins de départs, c'est moins facile à organiser. Donc, bien que nous ayons diffusé le message qui a été proposé par le gouvernement sur ce sujet, pour l'instant, nous avons assez peu d'adeptes parce que notre métier est très spécifique.
Alors, il faudrait parler aussi dans les modes de déplacement, la gestion des vélos et donc l'essor extraordinaire du vélo en principauté.
Alors, le vélo, donc aujourd'hui avec la marque Monabike, hein, qui est vraiment la marque locale, c'est une aventure qui a débuté en 2010. À cette époque-là, nous avions imaginé que peut-être on aurait pu se déplacer à bicyclette dans Monaco, à une époque où le vélo électrique démarrait tout juste. Donc, quelle pouvait être l'attitude des résidents et des monégasques face à ce mode de déplacement qu'il faut bien le dire, compte tenu de notre déclivité, de notre topographie, c'était pas forcément gagné d'avance. Eh bien, petit à petit, d'abord, il y a le vélo, mais il y avait aussi les stations. Comment accueillir des vélos, les recharger, faire en sorte qu'ils soient toujours disponibles pour les usagers. Donc, on a mis en place un système à partir de 2010 qui s'est développé jusqu'à atteindre 17 stations début 2019. Et il était temps ensuite de l'ouvrir et de rendre cette pratique accessible à tous dans tous les quartiers de Monaco et surtout accessible non seulement aux abonnés comme dans le temps, mais aussi aux utilisateurs occasionnels. Il faut que ça soit facile d'accès. Depuis donc, le 12 juillet 2019, on a mis en place une solution qui est maintenant très mûre et qui a donné de très bons résultats dès la première année, puisque la première année, nous avons atteint 245 000 déplacements à vélo, alors que l'année précédente, on était à tout juste 80 000. Et cette année, malgré le Covid, on atteint les 342 000 déplacements. Donc, c'est un beau succès. Je crois que ça tient d'une part à ce double besoin qui est le besoin de liberté. Comment est-ce qu'on peut se déplacer librement dans un espace urbain, même fût-il contraint ? Et la deuxième chose, c'est se déplacer rapidement. Car aujourd'hui, l'enjeu, ça reste de se déplacer rapidement en toute liberté. Et c'est ce qui a, à mon avis, convaincu les utilisateurs. Et j'espère que lorsque toute la situation sera devenue normale, eh bien, nous aurons encore plus d'utilisation.
La gestion des déchets, vous y avez déjà fait allusion. Qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement pour le personnel, pour les usagers ?
Et alors pour les usagers dans les bus, c'est très compliqué de mettre des moyens de récupération, ça c'est pas très simple. Et je dirais que nos confrères de la SMA ont disposé partout dans Monaco des possibilités de récupérer ce qu'on a besoin de jeter. Donc je dirais que à chacun son métier, je pense que nos confrères font ça très bien. Grâce à leur aide d'ailleurs, pour ce qui est de l'interne de la partie, notamment les locaux techniques, ce que l'on a changé, ce qu'on ne faisait pas avant, et là on s'est un peu amélioré, on ne faisait pas de tri de ce qui concernait les déchets de bureau, c'est-à-dire tout ce qui est papier, etc. Bon, c'était pas géré. Là, on a mis des bacs et aujourd'hui, on fait beaucoup plus attention. Par le passé, nous faisions le tri de tout ce qui est produit, je dirais, industriel, que ce soit les métaux, que ce soit les batteries, que ce soit les huiles usagées, etc. Tout ça, c'était déjà trié, mais il manquait ce volet. Il n'y a pas une très très grande volumétrie, mais ceci étant, c'est la continuité et en ce sens, je dirais, le pacte a eu un effet déclenchant.
En fin de vie, le bus, c'est pas vous qui le recyclez. Comment ça se passe ?
Alors, c'est une excellente question parce que souvent on parle lorsqu'on achète un véhicule où on se dit ben tiens quelle va être sa fin de vie quoi. Ouais. Alors nous on n'en est même pas là. C'est que nous ce que notre manière de voir les choses c'est d'entretenir les bus suffisamment bien pour qu'ils puissent être revendus et resservir après. Et quand vous regardez un autobus de Monaco, eh bien quand il a 12 ans, aujourd'hui c'est 12 ans sont sa limite d'âge, eh bien c'est difficile de faire la différence, sauf peut-être le design qui a changé, mais au niveau de l'entretien, il est très propre. Et donc, on trouve assez facilement des sociétés, des réseaux qui veulent racheter ces véhicules et leur donner une deuxième utilisation. Notre objectif, c'est d'entretenir les véhicules le plus longtemps possible pour les garder comme dans un état neuf. et encore c'est valorisant pour les personnes qui travaillent dans notre entreprise, c'est de vraiment d'avoir un niveau de qualité des matériels. Ça va au-delà du simple aspect financier, c'est pas forcément le meilleur calcul, mais par contre c'est un calcul humain qui fait qu'on maintient la qualité. Et surtout on a une possibilité de revente qui est intéressante.
L'optimisation énergétique, évidemment, il y a du carburant, il y a de l'énergie. Comment faites-vous pour l'optimiser ?
Alors, première chose, on essaie de concevoir des services au niveau des véhicules qui font le moins de haut-le-pied possible. Alors, un haut-le-pied, c'est un voyage à vide. À chaque fois que vous faites un voyage à vide, bien, vous consommez du carburant, mais vous ne transportez pas de voyageurs. Donc ça, on essaye de limiter au maximum cela. C'est une des raisons pour lesquelles le gouvernement a toujours bien compris que l'importance d'un dépôt à Monaco, le plus possible. Alors en centre-ville, tout est en centre-ville à Monaco, mais près des points de départ et d'arrivée, de manière à ce qu'on ait le minimum de haut-le-pied. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a toujours, depuis toujours, moi, dès que je suis rentré dans la société, je l'avais constaté, fait très attention à couper les moteurs en tête de ligne. Et sauf le soir, parce que le soir, on avait toujours peur que les bus ne redémarrent pas. Là, maintenant, c'est tout le temps. On dit, vous coupez les moteurs tout le temps. Quand c'est possible. Techniquement, c'est pas toujours possible, mais en tout cas, c'est l'objectif que l'on a fixé. Et ça, c'est de l'énergie qui n'est pas consommée, donc c'est de l'énergie qui est sauvée. Et ensuite, sur le carburant que l'on utilise depuis 1998, à l'initiative notamment de Bernard Fautrier, nous avions testé le diester, hein, comme d'autres partenaires aussi, hein, des transports, je pense notamment à la société qui l'EMT, hein, qui avait initié ça avec M. Ortelli. Eh bien, ensuite, on a embrayé et on a, dès 98, passé tout notre parc avec du biocarburant qui consiste en un mélange 70% de produits fossiles et 30% de produits renouvelables. Ce qui fait que, in fine, on obtient un gain de 23%, on diminue de 23%. Alors, la deuxième étape, ça a été depuis 2011, des autobus hybrides. Ces autobus hybrides donc, consomment moins que des autobus diesel qui n'ont pas de moteur électrique, pas de batterie à bord. Ces autobus ont permis de réduire la consommation de carburant journalière, ce qui fait que la combinaison des deux, c'est la combinaison du diester d'un côté et de l'électrification et de l'hybridation, la récupération en fait, d'énergie dans les descentes, aux arrêts, etc., eh bien, a permis de venir atteindre les 50% de réduction des émissions fossiles. C'est quand même, faut-il le rappeler, l'objectif fixé par le prince souverain pour les années 2030. Donc aujourd'hui, nous avions, avant même d'envisager la traction électrique complète, nous avions une solution qui nous permettait de tangenter cet objectif à l'horizon 2030. Donc on est plutôt en avance, d'autant qu'aujourd'hui, la moitié du parc est hybride, ce qui est un cas rare, je dirais, dans les réseaux. Alors, ça n'est pas forcément très parlant. Hein. Je dirais que c'est souvent inaudible de parler de bus électriques qui consomment du carburant, mais ça reste, d'un point de vue purement technique et scientifique, je dirais, ça reste un gain notoire. Donc Monaco, je dirais, n'est pas en retard dans ce domaine-là. Et Monaco prendra encore de l'avance grâce au plan de décarbonation du réseau d'autobus sur lequel nous travaillons avec le gouvernement, avec les services de l'État, afin de proposer, je dirais, de nouveaux bus. Vous avez dû voir les essais nombreux hein, qui ont été faits depuis plus d'un an maintenant, de manière à pouvoir sélectionner les véhicules qui sont les mieux adaptés et les systèmes de recharge qui sont les mieux adaptés. Car, contrairement à ce que l'on peut penser, c'est pas facile de recharger un autobus, ça demande des puissances considérables, cela demande des équipements considérables et tout cela nécessite des études que nous menons. Alors pour la partie opérationnelle, c'est nous, et pour la partie conception, études, c'est plutôt les services de l'État et notamment la DPUM, pour converger vers, je pense, au milieu d'année, vers une solution technique qui pourra être appliquée pour les années à venir. Donc il y a un joli travail en perspective, passionnant.
Est-ce qu'il y a eu d'autres prises de conscience écologiques ou d'autres initiatives de la part de la compagnie des autobus de Monaco ?
Ce qu'on a essayé vraiment de faire passer à nos salariés, c'est qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour faire un petit quelque chose. Et c'est la somme des petits quelque chose qui iront, je dirais, grossir l'efficacité générale. Donc, j'ai pas d'exemple précis à vous donner à l'instant, si ce n'est le fait d'être attentif à ne pas laisser d'appareils en veille, par exemple. Bon, alors en ce moment, c'est un peu compliqué avec le télétravail, mais on est obligé de laisser nos ordinateurs en marche. Mais il est vrai que d'essayer de ne pas avoir d'appareils en veille inutilement, ça, par exemple, c'est un point que beaucoup de gens font. Hein, mais de sensibiliser, de dire, pensez-y. Voilà. Qu'est-ce que chacun peut faire à son niveau pour apporter le petit plus.
Est-ce que vous auriez besoin d'assistance pour aller plus loin dans cette démarche écologique?
Alors, d'abord, nous en avons. Hein, la MTE, avec qui nous collaborons sur tout un tas de sujets, notamment la question des vélos électriques, puisque la MTE a communiqué sur ce sujet-là et nous aide bien, justement, pour diffuser l'existence des stations, les résultats que nous avons obtenus. Donc, c'est assez naturel, je dirais, de collaborer avec les services du gouvernement et en particulier la MTE. Non, aujourd'hui, ce dont on aimerait bénéficier en quelque sorte, enfin, pas nous, mais je dirais la collectivité, enfin, les utilisateurs qui vivent dans le tissu urbain, c'est d'essayer de faire rentrer dans l'esprit des gens que le transport en commun doit être prioritaire. Non pas pour faire plaisir au directeur de la compagnie de bus de Monaco, ça c'est, franchement c'est pas le sujet, mais c'est de se rendre compte que dans un espace contraint comme la Principauté, la Principauté est une fourmilière si vivante que l'espace, c'est vraiment, c'est de l'or, hein, l'espace. On voit bien pour installer une station de vélo, comme c'est compliqué de trouver de l'espace pour pouvoir les mettre. Eh bien, pour se déplacer dans Monaco, c'est la même chose. Quand on se déplace avec un véhicule qui représente 10 mètres carrés ou 12 mètres carrés au sol, je pense notamment aux voitures particulières, eh bien, pour une personne, voire quelquefois deux, on occupe une place qui prend sur le reste de la communauté. Et donc, la prise de conscience, ça serait de faire en sorte que lorsqu'on se déplace, on occupe moins de place. Donc, essayons de se déplacer en groupe ou essayons de se déplacer avec des véhicules plus petits. Alors, ce n'est pas toujours facile. Ou marchons un peu plus ou prenons des ascenseurs. Mais c'est difficile de se plaindre d'une situation, je dirais, de saturation des axes, notamment aux heures de pointe, alors que notre espace est fini et que notre nombre de véhicules légers, notre nombre de voitures n'a cessé d'augmenter au fil des années, quoi. C'est ça la difficulté.
Alors justement, donc il y a des freins, on va dire, psychologiques à ce développement des autobus. Est-ce qu'en interne, quand vous avez modifié certaines choses, peut-être passé à de nouveaux bus, il y a eu un peu des réticences en interne ou de la part des usagers aussi?
Non, je pense pas que le client, vous savez, nos clients utilisent les bus, ou les usagers de manière générale utilisent les bus s'ils y trouvent un avantage. Je crois que toute personne choisit un mode de transport s'il estime que c'est plus avantageux pour lui, quelle qu'en soit la raison. Donc si on veut gagner la partie vis-à-vis des véhicules légers et des voitures, il faut qu'on soit plus performant. Alors, performant dans la technique peut-être, mais surtout dans le temps de déplacement. Je crois que si on analyse aujourd'hui nos temps de déplacement, juste faire un petit retour arrière sur l'histoire. En 1939, lorsque vous preniez un autobus de Monaco pour aller à Saint-Romain et pour revenir, vous aviez 30 minutes de déplacement. 15 minutes aller, 15 minutes retour. Grosso modo avec les temps d'arrêt du bus au terminus. Aujourd'hui, c'est 60 minutes. Et ces 60 minutes n'est pas lié au fait que les autobus d'aujourd'hui roulent moins vite ou sont pas capables de rouler à la vitesse des anciens. Non, c'est parce que les voies de circulation sont occupées et que, ma foi, on est obligé de partager l'espace avec d'autres véhicules. À l'époque, il y avait très très peu de voitures et donc on avait des vitesses moyennes qui étaient bien meilleures. Aujourd'hui, l'enjeu majeur pour notre développement, c'est de pouvoir offrir aux usagers un mode de déplacement qui soit rapide et fiable. Alors, fiable, il est. Les temps d'attente aux arrêts sont les mêmes qu'en 1939. 10 minutes en moyenne, donc je me présente à un arrêt, j'attends 5 minutes en moyenne, d'accord ? Mais par contre, mon temps de déplacement est beaucoup plus grand. Et il est beaucoup plus grand parce que la vitesse commerciale est trop faible. Et cette vitesse commerciale, il faut la développer, il faut faire en sorte qu'on puisse circuler plus vite. Donc on donne de la priorité aux autobus et qu'on en enlève aux voitures. Il ne s'agit pas d'interdire les voitures, mais il s'agit probablement d'enlever cette facilité, ce réflexe naturel qui consiste à prendre son véhicule personnel. Et si on arrive à faire ça, eh bien on va attirer de plus en plus de monde vers les transports en commun. Et voilà.
Et les employés de la CAM, ils réagissent comment à ces changements ?
Alors, de manière générale, ils accueillent très favorablement tout ce qui touche l'environnement. Je crois qu'il n'y a aucun doute aujourd'hui, tout le monde est en faveur de pratiques douces et de déplacements doux. Après, on atteint toujours les limites de ce qui est réalisable. Je vous disais, nos employés, par exemple, se déplacent aujourd'hui avec des véhicules individuels parce que il n'est pas facile, vu les heures, nos heures d'entrée et de sortie, de pouvoir utiliser les transports en commun. Mais de manière générale, nos salariés sont favorables à toutes ces mesures, s'y sont adaptés, souvent sont même moteurs, ont des idées qu'ils souhaitent partager et que l'on met en application lorsqu'on peut le faire.
Alors personnellement, vous, monsieur Derechniewski, est-ce que vous avez un éco-geste préféré ? Ne me répondez pas, prendre le bus.
Non, non. Alors, je vous avoue que je marche de plus en plus et j'utilise les vélos pour aller vite. Et le bus quand il pleut, vous voyez ? Donc, vous avez la réponse sur mes modes de déplacement. J'ai laissé le scooter depuis bien longtemps, je n'utilise plus. Moi, j'ai une manie, c'est que je passe mon temps à débrancher les chargeurs de téléphone portable ou les chargeurs de rasoir ou à la maison ou les chargeurs d'ordinateur dès qu'on débranche. Voilà. Et je fais la guerre en interne pour veiller à ne rien... J'ai rien laissé en veille pour rien, quoi. Là, c'est des petites choses, mais c'est devenu une manie.
À qui pourriez-vous recommander de signer le pacte ?
Bien, écoutez, moi, je pense que tout le monde doit s'intéresser au pacte et formaliser peut-être ce qu'il fait déjà. Je crois que tout le monde peut y accéder, c'est facile, c'est clairement expliqué, il n'y a pas trop de contraintes, je dirais. Simplement un rappel, il faut avoir cette petite lumière dans le coin de l'esprit qui fait que bon, on réagit toujours. Ça sert un peu de fil conducteur, donc moi je dis tout le monde doit pouvoir signer le pacte.
Je vous laisse le mot de la fin si vous voulez bien.
À la compagnie d'autobus de Monaco, nous avons signé le pacte national pour la transition énergétique. Et vous ?
Parce que la transition énergétique et la protection de notre planète sont l'affaire de tous, vous venez de découvrir des clés pour agir au quotidien. Présenté par la mission pour la transition énergétique du gouvernement Pressier.